Jules Verne, L'île mystérieuse. Chapitre 16. On en était au 6 mai, jour qui correspond au 6 novembre des contrées de l'hémisphère boréal. Le ciel s'embrumait depuis quelques jours et il importait de prendre certaines dispositions en vue d'un hivernage. Toutefois, la température ne s'était pas encore abaissée sensiblement, et un thermomètre centigrade transporté à l'île Lincoln eut encore marqué une moyenne de 10 à 12 degrés au-dessus de zéro. Cette moyenne ne saurait surprendre, puisque l'île Lincoln, située très vraisemblablement entre le 35e et le 40e parallèle, devait se trouver soumise, dans l'hémisphère sud, aux mêmes conditions climatériques que la Sicile ou la Grèce dans l'hémisphère nord. Mais, de même que la Grèce ou la Sicile éprouvent des froids violents qui produisent neige et glace, de même l'île Lincoln subirait sans doute, dans la période la plus accentuée de l'hiver, certains abaissements de température contre lesquels il convenait de se prémunir. En tout cas, si le froid ne menaçait pas encore, la saison des pluies était prochaine, et, sur cette île isolée, exposée à toutes les intempéries du large, en plein océan Pacifique, les mauvais temps devaient être fréquents, et probablement terribles. La question d'une habitation plus confortable que les cheminées dut donc être sérieusement méditée et promptement résolue. Pencroff, naturellement, avait quelque prédilection pour cette retraite qu'il avait découverte, mais il comprit bien qu'il fallait en chercher une autre. Déjà les cheminées avaient été visitées par la mer, dans des circonstances dont on se souvient, et on ne pouvait s'exposer de nouveau à pareil accident. D'ailleurs, ajouta Cyrus Smith, qui ce jour-là causait de ces choses avec ses compagnons, nous avons quelques précautions à prendre. Pourquoi ? L'île n'est point habitée ? Dit le reporter. Cela est probable, répondit l'ingénieur. Bien que nous ne l'ayons pas explorée encore dans son entier. Mais si aucun être humain ne s'y trouve, je crains que les animaux dangereux n'y abondent. Il convient donc de se mettre à l'abri d'une agression possible et de ne pas obliger l'un de nous à veiller chaque nuit pour entretenir un foyer allumé. Et puis, mes amis, il faut tout prévoir. Nous sommes ici dans une partie du Pacifique souvent fréquentée par les pirates malais.
Quoi ?
Dit Harbert. À une telle distance de toute terre ?
Oui, mon enfant, répondit l'ingénieur.
Ces pirates sont de hardis marins, aussi bien que des malfaiteurs redoutables, et nous devons prendre nos mesures en conséquence.
Eh bien, répondit Pencroff,
nous nous fortifierons contre les sauvages, à deux et à quatre pattes, mais, monsieur Cyrus, ne serait-il pas à propos d'explorer l'île dans toutes ses parties, avant de rien entreprendre ?
Cela vaudrait mieux, ajouta Gédéon Spilett. Qui sait si nous ne trouverons pas sur la côte opposée une de ces cavernes que nous avons inutilement cherchées sur celle-ci.
Cela est vrai, répondit l'ingénieur. Mais vous oubliez, mes amis, qu'il convient de nous établir dans le voisinage d'un cours d'eau, et que du sommet du mont Franklin, nous n'avons aperçu vers l'ouest ni ruisseau ni rivière. Ici, au contraire, nous sommes placés entre la Mercy et le lac Grant, avantage considérable qu'il ne faut pas négliger. Et de plus, cette côte, orientée à l'est, n'est pas exposée comme l'autre au vent alizé qui souffle du nord-ouest dans cet hémisphère.
Alors, monsieur Cyrus, répondit le marin, construisons une maison sur les bords du lac. Ni les briques, ni les outils ne nous manquent maintenant.
Après avoir été briquetier, potier, fondeur, forgeron, nous saurons bien être maçons, que diable.
Oui, mon ami. Mais avant de prendre une décision, il faut chercher. Une demeure dont la nature aurait fait tous les frais nous épargnerait bien du travail, et elle nous offrirait sans doute une retraite plus sûre encore, car elle serait aussi bien défendue contre les ennemis du dedans que contre ceux du dehors.
En effet, Cyrus, répondit le reporter, mais nous avons déjà examiné tout ce massif granitique de la côte, et pas un trou, pas même une fente.
Non, pas une. Ajouta Pencroff.
Ah, si nous avions pu creuser une demeure dans ce mur, à une certaine hauteur, de manière à la mettre hors d'atteinte,
Voilà qui eût été convenable. Je vois cela d'ici, sur la façade qui regarde la mer, 5 ou 6 chambres, avec des fenêtres pour les éclairer, dit Harbert en riant. Et un escalier pour y monter, ajouta Nab.
Vous riez ? S'écria le marin. Et pourquoi donc ? Qu'y a-t-il d'impossible à ce que je propose ? Est-ce que nous n'avons pas des pics et des pioches ? Est-ce que M. Cyrus ne saura pas fabriquer de la poudre pour faire sauter la mine ? N'est-il pas vrai, M. Cyrus, que vous ferez de la poudre le jour où il nous en faudra ?
Cyrus Smith avait écouté l'enthousiaste Pencroff, développant ses projets un peu fantaisistes. Attaquer cette masse de granit, même à coups de mine, c'était un travail herculéen, et il était vraiment fâcheux que la nature n'eût pas fait le plus dur de la besogne. Mais l'ingénieur ne répondit au marin qu'en proposant d'examiner plus attentivement la muraille, depuis l'embouchure de la rivière jusqu'à l'angle qui la terminait au nord. On sortit donc, et l'exploration fut faite, sur une étendue de 2 000 environ, avec un soin extrême. Mais en aucun endroit, la paroi, unie et droite, ne laissa voir une cavité quelconque. Les nids des pigeons de roche qui voltaient à sa cime n'étaient, en réalité, que des trous forés à la crête même et sur la lisière irrégulièrement découpée du granit. C'était une circonstance fâcheuse, et quant à attaquer ce massif, soit avec le pic, soit avec la poudre, pour y pratiquer une excavation suffisante, il n'y fallait point songer. Le hasard avait fait que, sur toute cette partie du littoral, Pencroff avait découvert le seul abri provisoirement habitable, c'est-à-dire ses cheminées, qu'il s'agissait pourtant d'abandonner. L'exploration achevée, les colons se trouvaient alors à l'angle nord de la muraille, où elle se terminait par ces pentes allongées qui venaient mourir sur la grève. Depuis cet endroit jusqu'à son extrême limite à l'ouest, elle ne formait plus qu'une sorte de talus, épaisse agglomération de pierres, de terre et de sable, reliée par des plantes, des arbrisseaux et des herbes, inclinée sous un angle de 45 degrés seulement. Çà et là, le granit perçait encore, et sortait par pointes aiguës de cette sorte de falaise. Des bouquets d'arbres s'étageaient sur ces pentes, et une herbe assez épaisse la tapissait. Mais l'effort végétatif n'allait pas plus loin, et une longue plaine de sable, qui commençait au pied du talus, s'étendait jusqu'au littoral. Cyrus Smith pensa, non sans raison, que ce devait être de ce côté que le trop-plein du lac s'épanchait sous forme de cascade. En effet, il fallait nécessairement que l'excès d'eau, fourni par le Creek Rouge, se perdît en un point quelconque. Or ce point, l'ingénieur ne l'avait encore trouvé sur aucune portion des rives déjà explorées, c'est-à-dire depuis l'embouchure du ruisseau, à l'ouest, jusqu'au plateau de Grande-Vue. L'ingénieur proposa donc à ses compagnons de gravir le talus qu'ils observaient alors et de revenir aux cheminées par les hauteurs, en explorant les rives septentrionales et orientales du lac. La proposition fut acceptée, et, en quelques minutes, Harbert et Nab étaient arrivés au plateau supérieur. Cyrus Smith, Gédéon Spilett et Pencroff les suivirent d'un pas plus posé. À 200 pieds, à travers le feuillage, la belle nappe d'eau resplendissait sous les rayons solaires. Le paysage était charmant en cet endroit. Les arbres, aux tons jaunis, se groupaient merveilleusement pour le régal des yeux. Quelques vieux troncs énormes, abattus par l'âge, tranchaient par leur écorce noirâtre sur le tapis verdoyant qui recouvrait le sol. Là caquetait tout un monde de cacaotès bruyants, véritables prismes mobiles, qui sautaient d'une branche à l'autre. On eût dit que la lumière n'arrivait plus que décomposée à travers cette singulière ramure. Les colons, au lieu de gagner directement la rive nord du lac, contournèrent la lisière du plateau, de manière à rejoindre l'embouchure du creek sur sa rive gauche. C'était un détour d'un mille et demi au plus. La promenade était facile, car les arbres, largement espacés, laissaient entre eux un passage libre. On sentait bien que, sur cette limite, s'arrêtait la zone fertile. Et la végétation s'y montrait moins vigoureuse que dans toute la partie comprise entre le cours du creek et de la Mercy. Cyrus Smith et ses compagnons ne marchaient pas sans une certaine circonspection sur ce sol, nouveau pour eux. Arcs, flèches, bâtons emmanchés d'un fer aigu, C'était là leurs seules armes.
Cependant, aucun fauve ne se montra, et il était probable que ces animaux fréquentaient plutôt les épaisses forêts du sud. Mais les colons eurent la désagréable surprise d'apercevoir Top s'arrêter devant un serpent de grande taille, qui mesurait 14 à 15 pieds de longueur. Nab l'assomma d'un coup de bâton. Cyrus Smith examina ce reptile et déclara qu'il n'était pas venimeux, car il appartenait à l'espèce des serpents-diamants dont les indigènes se nourrissent dans la Nouvelle-Galles du Sud. Mais il était possible qu'il en existât d'autres dont la morsure est mortelle, telles que ces vipères sourdes, à queue fourchue, qui se redressent sous le pied, ou ces serpents ailés, munis de 2 oreillettes qui leur permettent de s'élancer avec une rapidité extrême. Top, le premier moment de surprise passé, donnait la chasse aux reptiles avec un acharnement qui faisait craindre pour lui. Aussi son maître le rappelait-il constamment. L'embouchure du Creek Rouge, à l'endroit où il se jetait dans le lac, fut bientôt atteinte. Les explorateurs reconnurent sur la rive opposée le point qu'ils avaient déjà visité en descendant du mont Franklin. Cyrus Smith constata que le débit d'eau du creek était assez considérable. Il était donc nécessaire qu'en un endroit quelconque, la nature eût offert un déversoir au trop-plein du lac. C'était ce déversoir qu'il s'agissait de découvrir, car, sans doute, il formait une chute dont il serait possible d'utiliser la puissance mécanique. Les colons, marchant à volonté mais sans trop s'éloigner les uns des autres, commencèrent donc à contourner la rive du lac, qui était très accore. Les eaux semblaient extrêmement poissonneuses, et Pencroff se promit bien de fabriquer quelques engins de pêche afin de les exploiter. Il fallut d'abord doubler la pointe aiguë du nord-est. On eût pu supposer que la décharge des eaux s'opérait en cet endroit, car l'extrémité du lac venait presque affleurer la lisière du plateau. Mais il n'en était rien, et les colons continuèrent d'explorer la rive, qui, après une légère courbure, redescendait parallèlement au littoral. De ce côté, la berge était moins boisée, mais quelques bouquets d'arbres, semés çà et là, ajoutaient au pittoresque du paysage. Le lac Grant apparaissait alors dans toute son étendue, et aucun souffle ne ridait la surface de ses eaux. Top, en battant les broussailles, fit lever des bandes d'oiseaux divers, que Gédéon Spilett et Harbert saluèrent de leurs flèches. Un de ces volatiles fut même adroitement atteint par le jeune garçon, et tomba au milieu d'herbes marécageuses. Top se précipita vers lui et rapporta un bel oiseau nageur, couleur d'ardoise, à bec court, à plaque frontale très développée, aux doigts élargis par une bordure festonnée, aux ailes bordées d'un liséré blanc. C'était un foulque, de la taille d'une grosse perdrix, appartenant à ce groupe des macrodactyles, qui forme la transition entre l'ordre des échassiers et celui des palmipèdes. Triste gibier, en somme, et d'un goût qui devait laisser à désirer. Mais Top se montrerait sans doute moins difficile que ses maîtres, et il fut convenu que le foulque servirait à son souper. Les colons suivaient alors la rive orientale du lac, et ils ne devaient pas tarder à atteindre la portion déjà reconnue. L'ingénieur était fort surpris, car il ne voyait aucun indice d'écoulement du trop-plein des eaux. Le reporter et le marin causaient avec lui, et il ne leur dissimulait point son étonnement. En ce moment, Top, qui avait été fort calme jusqu'alors, donna des signes d'agitation. L'intelligent animal allait et venait sur la berge, s'arrêtait soudain et regardait les eaux, une patte levée, comme s'il eût été en arrêt sur quelque gibier invisible. Puis il aboyait avec fureur, en quêtant, pour ainsi dire, et se taisait subitement. Ni Cyrus Smith, ni ses compagnons n'avaient d'abord fait attention à ce manège de Top. Mais les aboiements du chien devinrent bientôt si fréquents que l'ingénieur s'en préoccupa. « Qu'est-ce qu'il y a, Top ? » demanda-t-il. Le chien fit plusieurs bonds vers son maître, en laissant voir une inquiétude véritable, et il s'élança de nouveau vers la berge. Puis, tout à coup, il se précipita dans le lac. « Ici, Top !» cria Cyrus Smith, qui ne voulait pas laisser son chien s'aventurer sur ces eaux suspectes. « Qu'est-ce qui se passe donc là-dessous ? »
demanda Pencroff, en examinant la surface du lac.
Top aura senti quelque amphibie, répondit Harbert.
Un alligator, sans doute, dit le reporter.
Je ne le pense pas, répondit Cyrus Smith. Les alligators ne se rencontrent que dans les régions moins élevées en latitude.
Cependant, Top était revenu à l'appel de son maître et avait regagné la berge. Mais il ne pouvait rester en repos. Il sautait au milieu des grandes herbes et, son instinct le guidant, il semblait suivre quelque être invisible qui se serait glissé sous les eaux du lac, en rasant les bords. Cependant, les eaux étaient calmes et pas une ride n'en troublait la surface. Plusieurs fois, les colons s'arrêtèrent sur la berge et ils observèrent avec attention. Rien n'apparut. Il y avait là quelque mystère.
L'ingénieur était fort intrigué. « Poursuivons jusqu'au bout cette exploration, » dit-il.
Une demi-heure après, ils étaient tous arrivés à l'angle sud-est du lac et se retrouvaient sur le plateau même de Grande Vue. À ce point, l'examen des rives du lac devait être considéré comme terminé, et cependant l'ingénieur n'avait pu découvrir par où et comment s'opérait la décharge des eaux.
« Pourtant ce déversoir existe, » répétait-il, « et puisqu'il n'est pas extérieur, il faut qu'il soit creusé à l'intérieur du massif granitique de la côte. »
« Mais quelle importance attachez-vous à savoir cela, mon cher Cyrus ?» demanda Gédéon Spilett.
« Une assez grande, » répondit l'ingénieur. « Car si l'épanchement se fait à travers le massif, il est possible qu'il s'y trouve quelques cavités, qu'il eût été facile de rendre habitable après avoir détourné les eaux. »
« Mais n'est-il pas possible, monsieur Cyrus, que les eaux s'écoulent par le fond même du lac ?» dit Harbert, « et qu'elles aillent à la mer par un conduit souterrain ?»
« Cela peut être, en effet, » répondit l'ingénieur. « Et si cela est, nous serons obligés de bâtir notre maison nous-mêmes, puisque la nature n'a pas fait les premiers frais de construction. »
Les colons se disposaient donc à traverser le plateau pour regagner les cheminées, car il était 5 heures du soir, quand Top donna de nouveaux signes d'agitation. Il aboyait avec rage, et, avant que son maître eût pu le retenir, il se précipita une seconde fois dans le lac. Tous coururent vers la berge. Le chien en était déjà à plus de 20 pieds, et Cyrus Smith le rappelait vivement, quand une tête énorme émergea de la surface des eaux, qui ne paraissait pas être profond dans cet endroit. Harbert reconnut aussitôt l'espèce d'amphibie auquel appartenait cette tête conique à gros yeux, que décoraient des moustaches à longs poils soyeux.
« Un lamantin !» s'écria-t-il.
Ce n'était pas un lamantin, mais un spécimen de cette espèce, comprise dans l'ordre des cétacés, qui porte le nom de dugong, car ses narines étaient ouvertes à la partie supérieure de son museau. L'énorme animal s'était précipité sur le chien, qui voulut vainement l'éviter en revenant vers la berge. Son maître ne pouvait rien pour le sauver, et avant même qu'il fût venu à la pensée de Gédéon Spilett ou d'Harbert d'armer leurs arcs, Top, saisi par le dugong, disparaissait sous les eaux. Nab, son épieu ferré à la main, voulut se jeter au secours du chien, décidé à s'attaquer au formidable animal, jusque dans son élément. « Non, Nab, » dit l'ingénieur, en retenant son courageux serviteur. Cependant, une lutte se passait sous les eaux. Lutte inexplicable, car dans ces conditions, Top ne pouvait évidemment pas résister. Lutte qui devait être terrible, on le voyait au bouillonnement de la surface. Lutte, enfin, qui ne pouvait se terminer que par la mort du chien. Mais soudain, au milieu d'un cercle d'écume, on vit reparaître Top. Lancé en l'air par quelque force inconnue, il s'éleva à 10 pieds au-dessus de la surface du lac, retomba au milieu des eaux profondément troublées, et eut bientôt regagné la berge sans blessure grave, miraculeusement sauvé. Cyrus Smith et ses compagnons regardaient sans comprendre. Circonstance non moins inexplicable encore. On eût dit que la lutte continuait encore sous les eaux. Sans doute le dugong, attaqué par quelque puissant animal, après avoir lâché le chien, se battait pour son propre compte. Mais cela ne dura pas longtemps. Les os se rougirent de sang, et le corps du dugong, émergeant d'une nappe écarlate qui se propagea largement, vint bientôt s'échouer sur une petite grève à l'angle sud du lac. Les colons coururent vers cet endroit. Le dugong était mort. C'était un énorme animal, long de 15 à 16 pieds, qui devait peser de 3 à 4 000 livres. À son cou s'ouvrait une blessure qui semblait avoir été faite avec une lame tranchante. Quel était donc l'amphibie qui avait pu, par ce coup terrible, détruire le formidable dugong? Personne n'eût pu le dire, et assez préoccupé de cet incident, Cyrus Smith et ses compagnons rentrèrent aux cheminées.